Bonjour à tous. Malgré la mobilisation des profs, c'est fait. Les mesures d'économie dans l'enseignement ont été votées après un débat qui aura duré quasiment toute la nuit. Une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. La proposition émane du président ukrainien qui se dit prêt aussi à un cessez-le-feu. Et puis à Roland-Garros, on connaît l'affiche de la finale féminine. Elle opposera la Polonaise Gvalinska et la Russe Andreeva. Bienvenue à tous. Les débats auront donc duré près de 15 heures, mais le décret programme a finalement été définitivement adopté au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un texte qui officialise les mesures d'économie dans l'enseignement. Le vote a eu lieu aux petites heures, c'était vers 4 heures du matin. Un vote, Fiorine Michaud, majorité contre opposition ou presque.
Oui, une voix dissonante s'est élevée dans la majorité. Mathilde Van Dorp, une députée de chez Les Engagés, qui a décidé de s'abstenir.
Je pense qu'il est clair qu'il faut prendre nos responsabilités par rapport à une situation budgétaire compliquée. Mais mon abstention, c'était aussi clairement signaler que la méthode ne fonctionnait pas, qu'il y avait un manque de concertation. Ce sont des choses que je signale depuis de nombreux mois. Donc il était important pour moi de pouvoir continuer à porter ce message-là et à pouvoir m'abstenir.
Dans l'opposition, il y avait un petit espoir que le cas de Mathilde Van Dorp ne soit pas exceptionnel. Martin Cazier, député PS.
J'espérais effectivement que plus de députés engagés puissent revenir à la raison, en fait, et revenir surtout à quelles avaient été leurs promesses électorales, puisqu'en réalité, ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui, c'est pas seulement trahir l'école, mais c'est trahir aussi les promesses qu'ils avaient faites aux citoyens dans tout leur programme.
À l'instar des échanges entre la majorité et l'opposition, l'extérieur du Parlement était également sous tension. Pour rappel, des milliers d'enseignants et d'élèves ont afflué hier vers la capitale et une vingtaine d'entre eux ont décidé de rester toute la nuit pour suivre le dénouement du vote, notamment Jean-François, professeur de formation sociale.
Voilà, de mon côté, j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, mais c'est quasiment impossible quand on entend tout ce qui est dit de la majorité qui ne correspond absolument pas à la réalité. C'est toutes des mesures qui seront d'application demain dans nos écoles et qui sont très difficiles à accepter de la part des enseignants, qui sont impossibles à accepter de la part des enseignants.
Une question reste désormais en suspens, celle de l'avenir. Les enseignants ont déjà menacé de continuer la grève jusqu'à la rentrée prochaine. D'autres ont également évoqué la Cour constitutionnelle comme dernier recours.
Merci beaucoup Fiorine Michaud avec des interviews réalisées par Lionel Denebourg et ces mesures entreront en vigueur à la prochaine rentrée scolaire. Alors Fiorine nous le disait il y a un instant, la question qui se pose maintenant c'est le mouvement des enseignants. Va-t-il s'éteindre? Eh bien rien n'est moins sûr. Hier la colère était très grande et la situation a d'ailleurs dégénéré à Namur. En raison d'un groupe de casseurs présents également parmi les manifestants. Des messages seraient également diffusés sur les réseaux sociaux annonçant la venue de groupes de casseurs aujourd'hui à Namur. Par précaution, plusieurs écoles namuroises resteront d'ailleurs fermées aujourd'hui. Les autorités restent attentives à la situation. Écoutez Charlotte Basler, elle est bourgmestre faisant fonction de Namur.
Forcément une attention particulière est renforcée, mettant en haute vigilance. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui circulent. Il y a une manifestation qui était prévue qui a aussi été annulée. Donc voilà, on est en train de regarder ce qui se passe sur les réseaux et les appels qui sont lancés. Je sais que plusieurs écoles ont décidé de fermer en demandant aux élèves de rester chez eux, de profiter de ce moment pour étudier, pour essayer de se concentrer sur ce qui est important hein, pour eux quand même en cette fin d'année. Et j'espère que ce sera entendu en tout cas.
Interview réalisée par Louis Matagne. Dans l'actualité internationale, à présent, un appel à la fin de la guerre en Ukraine. Et la proposition vient de Volodymyr Zelensky. Il propose un arrêt total des combats et une rencontre en face à face avec Vladimir Poutine, Mathieu Van Winkel.
C'est une lettre ouverte partagée par le président ukrainien et envoyée à Moscou. On y découvre la proposition d'un arrêt complet de la guerre, en commençant par un cessez-le-feu général pendant les négociations. Volodymyr Zelensky propose de rencontrer Vladimir Poutine en face à face. Pas très loquace, Donald Trump a brièvement réagi.
Je crois que ce serait super, il devrait faire ça.
Le Kremlin a répondu de son côté que le président russe étudiait cette lettre, mais que Volodymyr Zelensky était le bienvenu à Moscou quand il le voudra. La proposition évoque plutôt un terrain neutre comme la Suisse, la Turquie ou un pays arabe. Le président ukrainien écrit aussi que l'Europe devra être impliquée dans ces négociations. La lettre termine par une menace, celle de poursuivre les combats, mais aussi de voir le peuple russe demander du changement si les attaques de drones et les coupures de carburant se poursuivent. Le Kremlin est nerveux ces temps-ci, c'est vrai, mais pas au point d'être acculé. Cet appel à la fin de la guerre risque bien de rester lettre morte.
Des explications signées Mathieu Van Winkel. En France, on ne sait toujours pas officiellement ce matin si le corps retrouvé hier dans le Gers est bien celui de Liana. Mais les vêtements retrouvés sont similaires à ceux qu'elle portait. Le doute est donc mince. Une autopsie devra tout de même confirmer son identité. Un homme de 41 ans a été mis en examen lundi pour enlèvement et séquestration et puis incarcéré. Sa fille était amie avec Liana et il était déjà visé par 6 plaintes et signalements, notamment une plainte pour viol sur mineur déposée en août 2025. Mais le suspect n'a jamais été entendu dans cette affaire, ce qui a créé une vague d'émotions et qui soulève des questions dans le village de Florence où la petite fille avait été vue la dernière fois. Au reportage de Claudia Kelmel de Radio France.
Cela faisait 6 jours que Florence retenait son souffle, 6 jours qu'une partie des habitants recherchait Liana. Il y a eu les battues, il y a eu les réunions spontanées près de la piscine et les milliers de partages d'appels à témoins sur les réseaux sociaux. Anne-Marie a appris la découverte du corps par un SMS de son petit-fils.
C'est une catastrophe, on est dévastés.
Grégory Bobateau, le maire de Florence, a pris la parole en fin de journée.
Nous sommes tous unis dans cette épreuve. Nous avons simplement ce soir une pensée pour toutes les familles de victimes et une pensée particulière pour la famille de Liana.
Cédric a suivi l'affaire de près, une affaire qui pose question.
Oui, je ne comprends pas, sachant que c'est une personne déjà qui était déjà concernée par différentes affaires. Il faut attendre qu'il y ait un événement tragique ou plusieurs événements tragiques pour qu'on puisse après décider de faire quelque chose.
L'affaire Liana qui met en lumière un problème systémique selon Lisa.
Pour moi, la France n'a jamais protégé ni les femmes ni les enfants. Ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés. Et après, voilà, il se passe des drames comme celui-là. Il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi être en colère, quoi. En fait, là, il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, quoi.
Dans un communiqué diffusé par son avocat, la famille de Liana a exprimé son plus grand effroi. La justice devra, dit-il, faire son œuvre en toute sérénité.
Et hier soir, donc, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est horrifié de ces dysfonctionnements et une réunion est prévue aujourd'hui à l'initiative du Premier ministre. En tennis, place aujourd'hui aux demi-finales, messieurs, à Roland-Garros, avec à partir de 14h30 le match entre le jeune prodige tchèque Jakub Mencik et l'allemand Alexander Zverev. Dans l'autre demi, le duel 100% italien entre Matteo Arnaldi et Flavio Cobolli. Hier, on disputait les demi chez les dames. Victoire et qualification de la Russe Mira Andreeva et de la Polonaise Gwalinska, qui se retrouveront donc samedi. En finale, Gwalinska, c'est la grosse surprise de ce tournoi. Elle est issue des qualifications et n'a jamais atteint ce niveau-là en Grand Chelem.
Je suis vraiment très fière de moi et des efforts que j'ai déployés et super contente de ma victoire, évidemment. J'ai été surprise par le soutien du public. C'était un moment incroyable pour moi. Je suis très reconnaissante envers les spectateurs. Ils m'ont énormément aidée et ils m'ont donné beaucoup d'énergie. À part ça, j'ai l'impression de vivre dans une bulle pendant ce tournoi et j'essaye de me concentrer sur chaque match et de tout donner. Et après le tournoi, j'aurai le temps de comprendre tout ce qui s'est passé et de digérer tout ça. Je commence à être fatiguée, donc d'ici la finale, je vais dormir, boire du thé et regarder quelque chose à la télé, peut-être du tennis, parce que j'adore le tennis.
Interview réalisée par notre envoyée spéciale Christine Anquet. Et puis les Red Flames disputent ce soir un match qualificatif important pour la prochaine Coupe du Monde. 5e rencontre qualificative dans cette campagne. Ce sera contre la modeste formation du Luxembourg. C'est à suivre en direct sur OVIO. Le coup d'envoi, c'est à 20h15. Voilà qui marque la fin de ces infos, où que vous soyez. Merci de nous écouter.